L'exaltation du peuple grandit. Ils s'abandonnèrent à des projets d'indépendance. On rappelait la gloire d'Israël. Tous les conquérants avaient été châtiés. Antigone, Crassus, Varus. Misérable, dit le proconsul. Car il entendait le syriaque. Son interprète ne servait qu'à lui donner du loisir pour répondre. Antipas, bien vite, tira la médaille de l'empereur et, l'observant avec tremblement, il la présentait du côté de l'image. Les panneaux de la tribune d'or se déployèrent tout à coup, et, à la splendeur des cierges, entre ses esclaves et des festons d'anémone, Hérodias apparut, coiffé d'une mitre assyrienne, qu'une mentonnière attachait à son front. Ses cheveux, en spirale, s'épandaient sur un péplos d'écarlate, fendu dans la longueur des manches. Deux monstres en pierre, pareils à ceux du trésor des Atrides, se dressant contre la porte. Elle ressemblait à Cybèle à côté de ses lions. Et, du haut de la balustrade qui dominait Antipas, avec une patère à la main, elle cria « Longue vie à César !» Cet hommage fut répété par Vitellius, Antipas et les prêtres. Mais il arriva au fond de la salle un bourdonnement de surprise et d'admiration. Une jeune fille venait d'entrer. Sous un voile bleuâtre lui cachant la poitrine et la tête, on distinguait les arcs de ses yeux, les chalcédoines de ses oreilles, la blancheur de sa peau. Un carré de soie gorge de pigeon, en couvrant les épaules, tenait aux reins par une ceinture d'orfèvrerie. Ses caleçons noirs étaient semés de mandragores, et, d'une manière indolente, elle faisait claquer de petites pantoufles en duvet de colibri. Sur le haut de l'estrade, elle retira son voile. C'était Hérodias, comme autrefois dans sa jeunesse. Puis, elle se mit à danser. Ses pieds passaient l'un devant l'autre, au rythme de la flûte et d'une paire de crotales. Ses bras arrondis appelaient quelqu'un, qui s'enfuyait toujours. Elle le poursuivait, plus légère qu'un papillon. Comme une psyché curieuse, comme une âme vagabonde, et semblait prête à s'envoler. Les sons funèbres de la gingras remplacèrent les crotales. L'accablement avait suivi l'espoir. Ses attitudes exprimaient des soupirs. Et toute sa personne, une telle langueur qu'on ne savait pas si elle pleurait un dieu ou se mourrait dans sa caresse. Les paupières entrecloses, elle se tordait la taille, balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait trembler ses deux seins, et son visage demeurait immobile, et ses pieds n'arrêtaient pas. Vitellius la compara à Mestère, le pantomime. Aulus vomissait encore. Le tétrarque se perdait dans un rêve, et ne songeait plus à Hérodias. Il crut la voir près des Sadducéens, la vision s'éloigna. Ce n'était pas une vision. Elle avait fait instruire, loin de Machaerou, Salomé, sa fille, que le tétrarque aimerait. Et l'idée était bonne. Elle en était sûre maintenant. Puis, ce fut l'emportement de l'amour qui veut être assouvi. Elle dansa comme les prêtresses des Indes, comme les Nubiennes des cataractes, comme les Bacchantes de Lydie. Elle se renversait de tous les côtés, pareille à une fleur que la tempête agite. Les brillants de ses oreilles sautaient, l'étoffe de son dos chatoyait, de ses bras, de ses pieds, de ses vêtements jaillissaient d'invisibles étincelles qui enflammaient les hommes. Une harpe chanta, la multitude y répondit par des acclamations. Sans fléchir ses genoux, en écartant les jambes, elle se courba si bien que son menton frôlait le plancher. Et les nobades, habitués à l'abstinence, les soldats de Rome experts en débauche, les avares publicains, les vieux prêtres aigris par les disputes, tous dilatant leurs narines, palpitaient de convoitise. Ensuite, elle tourna autour de la table d'Antipas, frénétiquement, comme le rhombe des sorcières. Et, d'une voix que des sanglots de volupté entrecoupés, il lui disait « Viens, viens !» Elle tournait toujours, les tympanons sonnaient à éclater. La foule hurlait, mais le tétrarque criait plus fort « Viens, viens, tu auras Capharnaüm, la plaine de Tibérias, mes citadelles, la moitié de mon royaume !» Elle se jeta sur les mains, les talons en l'air, parcourut ainsi l'estrade comme un grand scarabée et s'arrêta, brusquement. Sa nuque et ses vertèbres faisaient un angle droit. Les fourreaux de couleurs qui enveloppaient ses jambes, lui passant par-dessus l'épaule comme des arcs-en-ciel, accompagnaient sa figure, à une coudée du sol. Ses lèvres étaient peintes, ses sourcils très noirs, ses yeux presque terribles. Et des gouttelettes à son front semblaient une vapeur sur du marbre blanc. Elle ne parlait pas, ils se regardaient. Un claquement de doigts se fit dans la tribune. Elle y monta, reparut et, en zézayant un peu, prononça ces mots d'un air enfantin.
Je veux que tu me donnes dans un plat la tête. »
Elle avait oublié le nom, mais reprit en souriant
« La tête de Yao Kanan !»
Le tétrarque s'affaissa sur lui-même, écrasé. Il était contraint par sa parole, et le peuple attendait. Mais la mort qu'on lui avait prédite, en s'appliquant à un autre, peut-être détournerait la sienne. Si Yao Kanan était véritablement Eli, il pourrait s'y soustraire. S'il ne l'était pas, le meurtre n'avait plus d'importance. Manae était à ses côtés et comprit son intention. Vitellius le rappela pour lui confier le mot d'ordre des sentinelles gardant la fosse. Ce fut un soulagement. Dans une minute, tout serait fini. Cependant, Manae n'était guère prompte en besogne. Il rentra, mais bouleversé.